Radio Larzac vous présente dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses. Une série de pastilles sonores pour découvrir le musée, ses métiers, son fonctionnement et ses actualités. À la fin du mois de mars 2025, le musée de Millau et des Grands Causses organisait 3 jours de rencontres, projections, conférences et échanges intitulés « À la lisière de monde », un partenariat avec le Bistrot des ethnologues, les cinémas de Millau, le Masrazal et la chaire « Habitabilité de la terre et transition juste » au sein de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. 3 jours en présence des anthropologues Philippe Descola et Nastasia Martin et de la philosophe Vincien Després. Nicolas Vorel, adjoint à la culture à la mairie de Millau.
Le parc des Grands Causses, par exemple, travaille autour des questions de trajectoire, d'adaptation au changement climatique des territoires. C'est un travail qui est très important. Tout le travail que fait le pôle également ressources naturelles et biodiversité au niveau scientifique, enfin des sciences dures en tout cas, est très très important également. Mais il y a un manque, qu'ils reconnaissent eux-mêmes, c'est celui de la présence des sciences sociales pour justement permettre aux habitants, aux communautés, aux collectifs, de venir échanger sur ces questions qui nous occupent tous, qui nous traversent tous aujourd'hui. Et peut-être que, justement, ces rencontres, c'est en tous les cas mon espoir, viennent combler ce manque aujourd'hui dans le travail qui est mené sur le territoire. Je pourrais dire la même chose aussi à propos de la constitution du futur pays d'art et d'histoire qui nous occupe, nous aussi, au niveau de la communauté de communes.
Katia Fersing, directrice du musée de Millau et des Grands Causses.
On travaille à partir de nos collections qu'on essaye de réenvisager à l'aune du temps présent et des enjeux et des questionnements du territoire, puisque ce sont des collections qui témoignent des façons d'habiter ce territoire depuis fort longtemps. Et ce qui nous intéresse, c'est de continuer à questionner ces façons d'habiter le territoire aujourd'hui à partir de ces objets et donc de la mise en dialogue de ces objets avec les enjeux qu'on peut connaître ou en tout cas qui traversent les collectifs d'ici. Dans ce sens, on envisage le musée comme un espace ouvert vers son territoire de vie, son milieu de vie, et donc on essaye de faire en sorte qu'il puisse engager la création d'espaces de discussion, de dialogue et de réflexion. Et donc avec Nastasia, c'est vrai qu'on discute depuis quelques années maintenant et on essaye de voir ensemble comment se croisent les problématiques, nous ici depuis ce territoire et puis elle à d'autres échelles et depuis d'autres territoires également. Et là, dans le cadre du travail engagé par la chaire, on a trouvé intéressant de pouvoir penser une forme de focus sur les questions qui sont posées dans le cadre de la chaire à travers le territoire des Grands Causses. Alors, donc, ce partenariat qui est quelque chose qui est en construction, il faut qu'on tisse les façons de faire et les façons de travailler ensemble. Et ce sont des choses qui sont aussi à inventer, en fait. On est sur un territoire là qui est un territoire expérimental, depuis nos endroits à nous, nos lieux à nous et avec nos outils à nous. En tout cas, l'idée, c'est de convoquer les regards, d'éclairer les problématiques de façon transdisciplinaire et évidemment plurielle, et d'essayer d'inviter les personnes qui vivent sur ce lieu, et aussi les personnes d'ailleurs, à venir discuter, échanger et penser ces questions tous ensemble. Donc l'idée, c'est de toujours avancer avec les chercheurs, main dans la main. Évidemment, l'anthropologie m'est très très chère puisque c'est ma discipline, mais on travaille aussi avec d'autres chercheurs venant d'autres disciplines, convoqués par nos propres collections qui sont très hétérogènes. On aura l'occasion de les découvrir ensemble, mais qui sont le reflet de ces façons d'habiter le territoire.
Les rencontres se sont ouvertes avec la projection du film Vivant parmi les vivants au cinéma de Millau. Alex a assisté à la projection.
Vivant parmi les vivants est un documentaire interespèces réalisé par Silver Petit, avec comme protagonistes principaux Stipa, une jument de Przewalski, sauvage, vivant sur les immensités du Cosméjan. Baptiste Morisot, un humain philosophe, enquêtant sur les alliances entre vivants. Hélène Roche, une humaine éthologiste équin, œuvrant à la sauvegarde du cheval de Przewalski et de son habitat. Alba, une chienne citadine, suivant son amie humaine Vinciane Després, également philosophe, développant un imaginaire de l'altérité, qui tout en tâtonnement passe par une réinvention du langage.
Et si les animaux écrivaient ? Pour moi, cette question est importante. Parce que si c'est le cas, non seulement cela signifierait que nous prenons enfin acte du fait qu'ils ont des choses à dire, mais aussi cela devrait nous conduire, nous les humains, à être un peu moins fanfarons. Si nous ne savons pas que les animaux écrivent, n'est-ce pas tout simplement parce que nous ne savons pas lire les langues étrangères ?
Vivant parmi les vivants, en inversant les perspectives, mène une réflexion sur notre rapport aux autres vivants. Le film interroge non sans humour et avec une certaine poésie notre relation au non-humain. Et au final, on ne sait pas qui observe qui.
À l'arrivée des humains sur les différents blocs continentaux, il y a toujours une extinction de la mégafaune. Partout.
Les primates sociaux occidentaux que nous sommes se sont fabriqués un monde d'entre-soi, allant jusqu'à se considérer en dehors de la nature. Baptiste Morisot nous invite à décentrer notre regard, à considérer les autres vivants comme nos voisins avec qui nous entretenons des liens interdépendants. Les autres vivants ont simplement une autre manière d'être vivant.
Comment se fait-il que certains oiseaux, comment se fait-il que certains chimpanzés, comment se fait-il que beaucoup d'animaux savent les plantes qui sont bonnes à manger, alors peut-être qu'ils l'apprennent ? Et si on imaginait qu'en fait les plantes parlent aux animaux ?
Vivant parmi les vivants propose un changement de paradigme pour faire société avec l'ensemble des vivants et aller vers une politique interespèce.
Nastasia Martin, anthropologue, dirige la chaire de professeur junior Habitabilité de la Terre et Transition Juste. Cette chaire s'appuie sur des travaux de terrain, mais soulève aussi des enjeux théoriques sur le type de réponse à formuler aux crises écologiques et climatiques à la croisée de différentes disciplines. La première année de séminaire était centrée sur le climat et l'habitabilité, tandis que la deuxième sur la question de la transition énergétique à travers le monde. Nastasia Martin, anthropologue.
Une des premières manières de questionner ces problématiques d'habitabilité, ça a été de réfléchir au concept même qui forme l'intitulé de cette chaire, c'est-à-dire habitabilité de la Terre. Qu'est-ce qu'on entend par habitabilité ? Transition juste, qu'est-ce qu'on entend par transition, transition énergétique et juste ? Donc, depuis 2 ans, j'ai convoqué des chercheurs de disciplines différentes à venir dialoguer sur ces questions pour déjà réhistoriciser, essayer de voir si on pouvait reformuler pour potentiellement décaler les formes de réponse. Et là, on arrive au point de bascule, entre guillemets, au point de passage à la troisième année qui s'intitule « Réponse alternative aux crises écosystémiques ». Pour cette troisième année, il me semblait absolument important que, même si les perspectives critiques des chercheurs depuis différentes disciplines qui s'intéressent à ces questions de climat, d'habitabilité, etc. sont extrêmement importantes, la formulation des problématiques et les réponses qui peuvent être apportées à ces problématiques ne peuvent pas uniquement émaner depuis les centres académiques et universitaires. C'est des questions qui doivent être déjà formulées collectivement et pas par une élite de chercheurs tels que nous, hein, mais collectivement depuis des territoires qui traversent des problématiques situées, etc., etc., pour, on espère, pouvoir apporter inventer des réponses à l'intersection de ces savoirs situés et de ce que les chercheurs qui travaillent sur ces problématiques depuis des années peuvent en dire. Raison pour laquelle, avec Katia Fersing, on a trouvé qu'il y avait là un terrain et des puissances à chacun de nos endroits qui pouvaient vraiment être partagées et où pouvait se créer quelque chose dont, encore une fois, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais l'idée, c'est vraiment de se créer un espace où ce type de pensée, ou la pensée, c'est-à-dire une pensée plus collective, est possible. Raison pour laquelle ces rencontres s'appelleront un refuge pour la pensée.
Ces 3 jours de rencontres à la lisière des mondes poursuivaient les réflexions et la démarche entamée par le musée de Millau et des Grands Causses à l'occasion des rendez-vous des autochtones organisés en novembre 2024. L'autochtonie, ou plutôt les autochtonies, y était définie comme un processus pour entrer en résonance avec le territoire et l'ensemble d'êtres vivants qui le peuplent. Les pratiques de pleine nature telles que l'escalade ou la spéléologie, fréquentes sur les Grands Causses, participent à la construction d'autochtonie et rendent donc un territoire plus habitable. Un concept qui fait écho pour Vincent Després.
La manière dont tu parlais d'un pays souhaitablement habitable, parce que chose à grimper, parce que chose à creuser, etc. Je me suis dit, mais c'est ça une opération de territorialisation. Et pourquoi je pensais? Parce que je me dis, quand Deleuze dit territoire, c'est de la matière d'expression. Et je me suis dit, mais trouver des outils, des pioches, des trucs, c'est de la matière d'expression. Un monde, c'est ce sur quoi on peut agir. Quel est le monde perçu pour Vonuxcule, pour les animaux? Une tique, c'est de l'acide butyrique, c'est des poils, c'est une peau, c'est du sang. C'est un monde sur lequel on perçoit, et on le perçoit parce qu'on peut agir dessus. Et je me dis, c'est vraiment marrant. C'est la création d'un monde et c'est une territorialisation en même temps. C'est joli. Moi, j'aime beaucoup l'idée que l'autochtonie pourrait être une forme de territorialisation, parce qu'en plus, là, ça insiste complètement sur l'idée, sur le fait de rompre avec l'idée qu'il faut être né sur place, etc. Non, on s'approprie en devenant propre à son territoire. Je veux dire, c'est l'escalade qui fait de vous un territorialisé.
Pour Philippe Descola, anthropologue, l'habitabilité d'un territoire est liée à la capacité de dépasser la séparation intellectuelle entre nature et culture, une séparation qui a rendu possible l'exploitation de la terre.
J'ai fixé comme objectif un travail comparatif qui était de comprendre les différentes formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains dont on avait la trace. Et fort heureusement, comme on fait de l'ethnographie depuis longtemps, on a des masses considérables de documentation ethnographique et historique pour essayer de comprendre ce phénomène. Et donc au fil du temps, j'en suis venu à essayer de montrer que notre propre façon, quand je dis nous, les modernes, c'est-à-dire les Européens à partir du XVIIe siècle et puis ensuite par l'intermédiaire du colonialisme et de la globalisation des échanges, une partie du reste du monde en sommes venus à considérer cette séparation comme étant naturelle justement entre humains et non-humains, alors qu'en réalité elle est une exception historique et les conséquences que ça entraîne. Donc je vais surtout parler des conséquences ce soir, c'est-à-dire en quoi cette façon de séparer humains et non humains que j'appelle le naturalisme, qui est une manière de détecter des qualités dans les objets du monde, qui se fait pas, c'est pas une théorie, le naturalisme, c'est des choses qu'on apprend au fil du temps, parce qu'on a appris à l'école et qu'on a été socialisé dans un certain milieu, qui fait qu'il nous paraît pas normal qu'il y ait des moutons qui soient au Parlement, qui siègent au Parlement, alors que si on transpose au fond ce que j'avais pu observer en Amazonie, ça serait normal qu'il y ait des... Non pas des moutons, parce qu'il n'y en a pas, mais des pécaris, par exemple, ou des pirogues qui siègent dans un corps consultatif. Et les conséquences de cela, évidemment, elles sont que le naturalisme a constitué une révolution anthropologique. C'est un thème qu'il faut manier avec précaution. Il est très utilisé, hors contexte, par l'extrême droite depuis quelques années. Mais ça, c'est une véritable révolution anthropologique. Et cette révolution anthropologique... elle a rendu possible l'émergence du capitalisme industriel, lequel a été, au fond, le grand système qui continue à détruire les conditions d'habitabilité de la Terre. Et donc la question que je me pose, c'est d'une part, par quels moyens est-ce que cette révolution anthropologique a rendu possible le capitalisme industriel, et comment aller à l'encontre de cela en luttant contre le fait que le naturalisme soit quelque chose d'évident, par exemple, que l'existence de la nature ou l'existence de la société comme des entités séparées nous apparaissent comme naturelles. Et comment lutter contre cela et comment transformer notre façon de voir les choses, notamment de notre rapport au vivant, au non-humain, de telle façon que, au-delà des transformations institutionnelles nécessaires, on puisse sortir, au fond, du système de dévastation que le capitalisme industriel a imposé à la Terre. C'est une question urgente. J'essaierai d'y répondre en donnant des pistes qui m'ont été inspirées par la connaissance que j'ai à la fois de première main, de collectifs autochtones, et de tout ce que j'ai lu sur la façon dont des collectifs autochtones, un peu partout et à différentes époques, ont conçu, au fond, les rapports entre humains et non-humains.
Dans la conférence présentée par Philippe Descola à Millau, une des pistes proposées est de donner un statut juridique aux entités non-humaines, ce qui permettrait de sortir de la prééminence de l'humain sur le non-humain. Cette évolution juridique s'est étendue pour la première fois à un pays européen en 2022, avec le vote par le Sénat espagnol des droits de la mer Ménor, une lagune d'eau salée située sur les bords de la Méditerranée, près de Murcie, en Espagne. Mais comment faire pour que tout le monde soit d'accord sur le concept d'habitabilité sur un même territoire? C'est tout l'objet des rencontres nommées « Refuge pour la pensée ».
Le problème, c'est qu'on ne peut pas être d'accord si toutes les parties prenantes n'ont pas eu l'occasion de nommer leurs attachements. Un refuge pour la pensée, c'est ça. Réinventer un espace où les uns et les autres peuvent nommer ce à quoi ils tiennent, peuvent nommer leurs attachements. Et encore sur la question de la nécessité de pluraliser, parce que justement, les seules logiques qu'on nous propose sont des logiques aménagiste et ou de conservation qui exclut aussi des formes de relations entre humains et non-humains. Si on ne fait pas un pas en arrière ou un pas de côté et qu'on crée l'espace de formuler nos attachements, on ne pourra pas, c'est-à-dire évidemment on peut se mettre d'accord sur rien puisque rien n'a été nommé.
À l'occasion de l'événement à la lisière des mondes, un refuge pour la pensée s'est installé au Masrazal, un lieu artistique sur le plateau du Larzac.
Mais oui, on se connaît. Je suis venue jouer ici au mois de septembre. Ouais, mais moi, c'est pas de là que je te connais.
Un samedi soir, le Masrazal a accueilli une soixantaine de personnes venues échanger autour de la question « À quoi tenons-nous ?» Une soirée animée par Justine Wojtyniak et Stéphane Fogger, les hôtes du Masrazal.
C'est vraiment à l'intuition, le mot qui me parle, quand est-ce que je suis appelée à table pour y aller, quand est-ce que j'attends mon tour, comment prenez le temps de ça, vraiment pour faire résonner ce qui émerge là, en premier lieu de nous.
Dans un premier temps, chaque participant était invité à répondre à cette question sur un papier et à venir le déposer sur une table au milieu.
La marche. La paix, la liberté.
La liberté.
La fête.
L'errance.
Je tiens à la complexité des mondes qui m'entourent.
À la santé et au bien-être de la rivière que nous côtoyons. Et je suis missionnée pour deux personnes qui ont mal au genou. La liberté de mouvement. Alors il y a les essais. Et la liberté de mouvement.
C'est avec marcher, ça.
Ouais, mais c'est le bazar, là.
Je tiens et ils me tiennent, la musique, l'eau, le repli, le dehors, le feu, le commun.
Ensuite, les participantes et participants étaient invités à s'exprimer sur leurs attachements par petits groupes et en dialoguant avec Nastasia Martin et Philippe Descola. Plusieurs groupes ont abordé la question de l'eau et de la rivière dans nos imaginaires.
C'est à ce moment-là que j'ai découvert ça avec les événements, mais il y a tout un tas d'autres collectifs qui pensent ces dialogues avec des rivières, avec des montagnes, avec ces milieux dits abiotiques. Voilà, une question, c'est est-ce qu'on peut faire cohabiter, que ça soit OK que l'eau de la rivière, on la navigue, on la boit, parfois on la dévie pour irriguer des cultures, mais on peut aussi lui chanter des chansons. Parce qu'on peut aussi penser qu'elle a une mémoire, qu'elle écoute et qu'elle peut peut-être répondre. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une hybridation possible de ces différentes cosmologies?
Par rapport aux mots croyances, parce que moi je me dis, bah, c'est ma croyance qu'elle est vivante et qu'elle a sa puissance. En fait, peut-être que je me trompe de vocabulaire, mais je me dis ça parce que je ne peux pas le prouver. C'est une sensibilité, c'est quelque chose, donc je me dis, bah, c'est ma croyance. Tout comme il y a plein d'autres croyances qui des fois s'entrechoquent avec les miennes.
Oui, le terme fait, croyance, on l'emploie avec précaution parce qu'il est implicitement opposé aux certitudes scientifiques. On a, nous les modernes, des certitudes scientifiques, les autres ont des croyances.
Mais alors, quel serait le terme? Moi, je parle de mon système de croyance, c'est moi.
De ton monde que tu partages avec d'autres. D'ailleurs, si on est là, c'est parce que. On a des mondes qui coexistent, en partie, qui se superposent en partie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les coïncidences et quelles sont les superpositions.
Comment les personnes présentes ont-elles vécu ce refuge pour la pensée? Agathe, bénévole au Masrazal.
Alors, ce qui m'a motivée à venir ce soir, c'est que le territoire sur lequel on vit, enfin ici, c'est vraiment pour moi un endroit où je trouve vraiment du sens à mon militantisme. C'est la première fois depuis que je vis ici que j'arrive à trouver une cohérence globale dans ma façon de militer, dans ma façon de vivre mon militantisme, dans mon quotidien aussi, dans mon corps, parce que je sens que le lien avec les autres personnes, et notamment les êtres humains, c'est plus facile ici, c'est plus vrai. Et donc, même si c'est vrai que ce soir j'ai hésité longuement à venir parce que j'étais fatiguée, parce que je me disais à quoi je tiens, mais je tiens à être en bonne santé. Et donc voilà, non, c'était bien qu'on soit deux pour se dire allez, on y va. Et on savait que c'était important pour nous de venir ici. L'essence de ce que j'ai trouvé dans les propos de tout un chacun et qui émergeait, qui a le plus résonné pour moi, c'était vraiment la colère de sentir l'énormité de l'anthropocentrisme dans la façon dont on vit aujourd'hui et à quel point ça nous bousille et comment est-ce qu'on fait pour refuser ça et en même temps continuer à vivre ensemble. La force avec laquelle il n'y a pas d'alternative, la seule façon de continuer à vivre, c'est de tout bousiller. C'est la première question qu'a posée Nastassia quand elle s'est présentée, quand elle a expliqué d'où elle parlait. Comment est-ce qu'on fait pour habiter un territoire sans perdre l'habitabilité? En fait, c'est complètement incroyable de se rendre compte que c'est la question essentielle qu'on a aujourd'hui en tant que population. Comment on fait pour vivre sans tout tuer autour de nous? C'est quand même dingue. C'est ça qui émerge le plus pour moi, c'est de sentir que ma colère, elle est partagée avec d'autres. Et de sentir que voilà, il y a cette question qui se pose, comment est-ce qu'on fait pour ne pas accepter toute cette destruction sans être soi-même en train d'être dans la destruction à cause d'une réponse à ça, quoi.
Ces rencontres à la lisière des mondes ont posé les premiers jalons d'un travail au long cours entre le musée de Millau et des Grands Causses et la chaire dirigée par Nastassia Martin, avec pour horizon un grand temps de restitution publique à Millau au printemps 2026. C'est une façon de pratiquer une pensée ancrée sur un territoire situé et d'ouvrir son regard à des savoirs pluriels. Avec l'espoir, pour le musée de Millau et des Grands Causses, que le musée devienne lui aussi un outil dans la transformation nécessaire pour trouver des réponses aux multiples crises que nous vivons. Pour en savoir plus sur les prochaines rencontres, vous pouvez vous rendre sur le site internet mumig.fr. Thank you. C'était Dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses, une série de pastilles sonores réalisée par Radio Larzac, en partenariat avec le MUMIG et le service culture de la ville de Millau. À retrouver en podcast sur radiolarzac.org.